Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 25 février 2026 en direct de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain de 9h à 10h ainsi que sur différentes plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales de Marseille et de ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation qui vous est adressée. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre du moi au nous et du nous au tout dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À notre micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Marin Moffret, accompagné en studio par Hugo Gattuso. Je ne sais pas si Hugo, tu as accès au micro.
Je suis là, je suis présent.
Bonsoir Hugo, bonsoir Sidi aussi. Et ce soir, nous recevrons Marion Chapulu qui va nous parler du Grand Bain. Le Grand Bain qui participe à un jumelage de classes de primaire qui se rencontrent pour pouvoir mener des projets en commun et qui viennent en revanche de différents quartiers de Marseille avec tout ce que ça peut avoir comme côté de rencontres sociales que de mettre des gens issus de milieux très différents qui mènent des projets et on va avoir une heure pour en parler. Mais avant de parler du Grand Bain, nous ce qu'on aime bien dans La Forêt des Possibles, c'est d'écouter des parcours. Et donc Marion, si tu l'acceptes, eh bien nous aimerions un petit peu te connaître toi et savoir quels ont été les moteurs de ton engagement.
Bonjour, enfin bonsoir Marin, bonsoir, merci de me recevoir. Alors, les moteurs de mon engagement, bah déjà, moi, je suis, disons que j'ai eu plusieurs vies professionnelles, donc c'est peut-être, on va dire, ma troisième vie professionnelle, cet engagement, mais il est venu petit à petit. Donc, je suis parisienne d'origine, j'ai un parcours qui correspond à ce qu'on va appeler un parcours un peu élitiste de l'école française, c'est-à-dire j'ai fait une grande école de commerce, pour ne pas dire, l'ESSEC, pour ne pas la nommer. Et puis je me suis engagée dans la voie de l'audiovisuel. J'étais hyper attirée par les sujets de communication. J'ai fait à l'époque un DESS, ça n'existe plus les DESS, donc c'est un master 2 d'audiovisuel. Et puis je suis partie travailler chez M6, ensuite je suis allée aux États-Unis pour apprendre la production cinéma-télé. Donc j'ai eu une vie professionnelle complètement loin de ce que je fais aujourd'hui. Enfin, il y a toujours des cycles en fait et des façons de raccorder, mais pendant 15 ans, j'ai travaillé plutôt dans les médias et mon engagement, il était personnel, c'est-à-dire que moi-même, pour des raisons familiales, j'ai été très engagée sur le sujet des maladies orphelines et des enfants malades, donc je suis m'engagée dans des hôpitaux, j'ai levé des fonds, mais je le faisais à titre complètement personnel. Et puis, il y a eu un moment de bascule. Je le dis parce que je me disais, mais quand même, je suis allée faire 2 ans à UCLA en Californie, qui était un moment formidable. Mais quand je suis revenue, donc je voulais passer du côté production, parce qu'avant, je travaillais dans l'audiovisuel, le côté diffusion. Et puis, personne n'en avait rien à faire de mon master de production audiovisuelle à UCLA. C'était vraiment pas du tout un avantage comparatif. Donc, je suis repartie du début, comme tout le monde, dans des boîtes de prod françaises et j'ai refait. Voilà. Et puis, arrivé un moment où je me posais pas mal de questions sur, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce milieu où la qualité n'est pas forcément reconnue, où on était quand même déjà beaucoup sur le chiffre. Je vais pas parler de l'audiovisuel pendant des plombes.
Les questions, c'est intéressant de savoir quelles ont été les questions de la prise de conscience.
Non, mais c'est un milieu qui est très dur parce que, en fait, quand on a envie de raconter des histoires un petit peu originales, qu'on le fait avec qualité et passion, c'est pas forcément ce qui est reconnu dans un milieu de télé, en tout cas. Et ça l'est encore moins aujourd'hui parce qu'en fait, on était déjà au début du câble. Enfin, je te parle de ça, c'est fin du 20e siècle, et enfin début du 21e. Et donc la multiplication des contenus fait qu'à un moment, en fait, ce qui est primé, c'est plutôt de faire beaucoup de contenu et pas forcément d'en faire bien, en tout cas en termes narratifs et en termes. Donc voilà, du coup, il y avait un peu cette course-là avec beaucoup de gens qui se lançaient dans la production indépendante et ceux qui pouvaient produire pour moins cher étaient valorisés plus que ceux qui avaient envie de produire avec respect pour ce qu'ils faisaient, et du plaisir et de l'innovation et voilà. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça très dur en tant que jeune productrice indépendante. On a monté une boîte avec un ami. C'était vraiment la course au moins cher. Et c'était, je me suis dit que ce n'était pas ça dont j'avais envie et que de toute façon, j'avais plutôt envie de faire des choses qui me faisaient vibrer et qui aussi me donnaient l'expérience de vivre des choses comment dire, concrètes. C'est-à-dire que voilà. Et à ce moment-là, est revenue à moi l'histoire des États-Unis, pas du tout pour l'audiovisuel, mais parce qu'en fait, certains copains que je m'étais fait à Los Angeles ont monté un truc extraordinaire qui s'appelle Rockcore. Rockcore, le principe, c'est 4 heures de bénévolat pour une place de concert. Donc, c'est produire des concerts exclusifs et pour rentrer dans ces concerts, il faut donner 4 heures de son temps.
Trop bien.
Donc, c'est juste génial. Et donc, ça, c'est des concerts avec des énormes stars, parce que c'est des gens qui avaient un réseau là-bas. Ils étaient 7 fondateurs. Et donc, sur ces 7, il y en a 4 qui étaient des copains que j'avais rencontrés. Et ils ont voulu s'implanter en France. Et donc, ils m'ont fait signe. Et à ce moment-là, m'a servi mes connexions dans le monde de la télé, parce que du coup, je suis arrivée à monter un partenariat avec M6. On l'a vendu à Orange, le concept. Et donc, pendant 7 ans, j'ai monté cette société qui s'appelait Rockcore France. Et on a fait un partenariat avec Orange Rockcore et on a engagé 45 000 jeunes dans des projets associatifs. Donc ça veut dire que les projets, ils étaient destinés à faire que des jeunes qui ne connaissaient rien au bénévolat, n'avaient pas forcément pensé que c'était quelque chose qui pouvait les intéresser et en plus venaient de milieux très divers. Puisque du coup, le concert, il était gratuit. Enfin, gratuit, il n'était pas gratuit. Il fallait donner 4 heures de son temps, mais tout le monde pouvait y accéder. Il n'y avait aucune façon d'acheter sa place. On ne pouvait pas la gagner par des jeux concours ou quoi. Il fallait venir donner 4 heures de son temps dans un projet qui était designé complètement par les équipes projet. Donc, c'était des projets qui étaient plutôt fun, où le concept de la forêt des possibles, c'est-à-dire qu'il y a plein d'arbres et qu'en fait, du coup, ces arbres créent une forêt à la fin, mais chacun vient apporter son petit truc dans cette histoire et chacun se sent utile. Et ça, c'était une grande force des projets, c'est qui m'a appris beaucoup de choses après dans les engagements futurs, c'est de donner confiance à chacun en lui donnant une place, en fait, et que 50 jeunes qui viennent donner un peu de leur temps, et ben ça fait un gros changement dans une association. Des fois 100, des fois 150, on a fait des projets géniaux. On a construit des poulaillers dans des EHPAD. On a fait des trucs vraiment très, très, très marrants et qui changeaient beaucoup de choses, parce que pour les associations, on leur apporte rarement quelque chose comme ça, complètement clé en main. Eux n'avaient pas besoin d'y passer du temps, puisque nous, on avait du financement pour avoir des équipes professionnelles qui encadrent ces bénévoles et qui font
En plus, avec des gens qui encadrent, ouais, ok.
Ouais, des gens qui encadrent. Ah oui, oui, non, c'était un truc, c'est le concept, moi j'adore, hein, les trucs anglo-saxons, il y en a quand même qui ont du génie. Et en l'occurrence, voilà, tout est hyper organisé, t'es reçu, on t'apporte un t-shirt, on t'explique où tu vas être, on te fait des petites équipes, chacun a des trucs à accomplir et à la fin des 4 heures, t'es applaudi, on fait des hola, chacun reçoit son ticket pour le concert et voilà, c'est un moment de fun en plus d'être un moment utile. Donc rendre le bénévolat comme une activité fun, épanouissante, c'était assez nouveau en fait. Hein. Je te parle de ça, on l'a monté en 2009, la première année. Et donc les gens nous ont pris un peu pour une secte au début.
C'est un peu au Beninova qui existe à Marseille.
Ouais,
bon, alors sans le concert à la fin, mais quand même les 4 heures.
Non, je sais, je connais très bien Beninova, donc je leur en ai beaucoup parlé, parce que du coup, à chaque fois, je m'amuse, je leur dis, bah, en fait, vous essayez de remonter Rockcore. Bon, le truc de Beninova, c'est l'avantage du concept de Rockcore, hein, c'est qu'il y a un modèle économique de sponsoring, et donc en fait, on a des moyens pour avoir des équipes. Là où Beninova ne peut pas, parce que c'est le bénévolat, il n'y a pas de modèle économique en soi. Donc, elles font un travail remarquable. Et franchement, c'est vraiment super ce qui se passe avec Beninova et avec Samedi Bien et tout. Moi, je trouve ça vraiment génial. Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus lent. Alors que là, nous, on a déroulé 35 000 bénévoles. Enfin, je veux dire, les concerts, il y avait Snoop Dogg et Pharrell Williams, quoi. Donc, voilà.
Et qui payait Enfin, bref, on n'est pas venu
Orange.
Pour parler de...
Okay, Orange,
c'est Orange qui payait tout ça. Ouais.
Et on l'a remonté il y a 2 ans avec Ibis. Donc, ça a été Ibis Rockcore pendant 2 ans.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, il y a un modèle économique de communication. C'est un peu comme si... c'est comme quand ils font du naming sur le Vélodrome, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... voilà. Mais là, c'est un naming sur un événement qu'on monte. Et en fait, c'est plein d'événements avec une vraie valeur sociétale. Donc... Enfin, moi, ça m'a complètement. C'est vrai que ça m'a beaucoup porté pendant longtemps parce que je trouvais que c'était très vertueux. Bon, comme tout modèle vertueux, il y a toujours des problématiques hein, qui se posent, mais en l'occurrence, pendant 7 ans, ça a été. Voilà. Et de fil en aiguille, en faisant Rockcore, donc, on a créé une communauté d'associations, puisqu'on a travaillé pour 600 associations. Donc, on a connu beaucoup d'assos et on leur a apporté des choses au-delà du projet qu'on a porté. On crée justement ce lien entre des associations. On a fait des concerts à Marseille, on a fait des concerts dans toute la France, beaucoup à Paris. Et du coup, ces associations, elles pouvaient communiquer ensemble. On leur apportait des compétences de la en capacitation, en communication, etc. Et puis, surtout, les jeunes, en fait, moi, je me rendais compte de ce que ça pouvait faire de travailler 4 heures ensemble. C'est un tout petit moment. Mais en fait, c'est des trucs fous. Je reparlais, je suis restée très proche de beaucoup de gens de mon équipe avec Charles André, qui aujourd'hui fait du digital. Et il me re-racontait, parce que lui, il a commencé comme beaucoup, comme chef de projet. Puis petit à petit, il est monté dans l'équipe. Hein. Et il avait fait la première année. Donc, les chefs de projet, ils étaient sur le terrain. Et il avait travaillé dans un quartier en Seine-Saint-Denis prioritaire. Et il y avait des jeunes du quartier qui étaient venus et qui tiraient un peu au flanc, comme ça peut arriver dans les projets. Comme, voilà. Et donc, les gens n'osaient pas trop forcément leur dire qu'il fallait aussi travailler. Donc, et Charles y est allé un peu en mode, bon, bah, moi, j'ai pas peur. Je fais de la boxe. Maintenant, les gars, il faut travailler. Quoi. Donc, ils ont un peu travaillé, mais pas tant que ça. Ils ont eu leur ticket de concert comme tout le monde. Et l'année suivante, Charles était à nouveau chef de projet. Les gars sont revenus. Et là, c'est eux qui ont travaillé le plus, qui se sont défoncés pendant 4 heures. Parce qu'en fait, on leur avait fait confiance. Surtout, ils avaient eu l'occasion d'aller à un concert où on les avait remerciés. Parce que les concerts, c'était aussi les moments où c'était les stars qui étaient dans la salle. C'était les bénévoles. Bravo, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et donc, bah, en fait, ils ont accroché au concept. Quoi. Et nous, on avait des jeunes qui revenaient tout le temps, d'année en année. Et qui, par ces moments de valorisation, bah, se sentaient mis en confiance. Et on leur demandait de se mouiller pour quelque chose qui est rare, parce que souvent, on ne demande pas de faire un effort pour quelque chose, on peut aussi avoir un... Voilà. Donc moi, j'ai trouvé que c'était hyper vertueux. Et de cette expérience, avec quelques membres de l'équipe, on a monté l'asso que je dirige aujourd'hui, qui s'appelle Citizen Corps, en se disant, bah, en fait, de ce concept qui est assez ponctuel, on peut en faire quelque chose peut-être qui soit plus long et qui soit un vrai parcours éducatif. Et c'est comme ça que je suis passée de l'engagement citoyen à l'idée de l'éducation citoyenne et de comment ça peut être des parcours plus longs et comment, en fait, l'engagement et la mixité. Parce qu'au cœur de ce projet, il y avait la mixité, le fait que personne ne peut l'acheter sa place. Donc, en fait, on est tous obligés de donner de son temps. Et en donnant de son temps ensemble et en faisant un projet ensemble, en étant fiers ensemble de ce qu'on a réalisé en collectif, et ben, ça change les relations. Et en plus, bon, tout le monde a le même t-shirt, donc il n'y a pas de question de se regarder. C'est vraiment qui a fait le plus d'efforts, à la limite, est plus valorisant que comment on est habillé. Voilà. Et donc ça, moi, j'ai trouvé ça... Enfin, ça m'a vraiment transformée sur la façon d'imaginer une façon de voir l'éducation, quoi. Que l'éducation, c'était pas juste dans les salles de classe, que c'était aussi de faire des choses ensemble qui changeaient la... qui changeait la perception de ce qu'on était capable de soi et que le collectif était quelque chose sur lequel on était assez peu éduqué en France, en fait. C'est pas quelque chose qu'on vit, on peut en parler, parce que dans les valeurs de la République, mais la réalité, c'est qu'on le vit assez peu. On travaille surtout dans l'idée d'une performance individuelle. Les notes, bah, c'est chacun qui les a. Le travail de groupe, c'est très peu fait. La collaboration, à la limite, mais la coopération... Personne n'est vraiment éduqué à cette coopération et à ce que ça peut transformer. Et une coopération entre des gens qui n'ont pas les mêmes parcours. C'est, voilà, c'est l'idée. C'est... Et donc, voilà, du coup, on a monté.
La lente maturation intellectuelle. Malgré tout, il y a quand même une certaine différence entre remplir des stades avec Snoop Dogg et avoir des élèves de CM2 qui se retrouvent pour...
Mais donc, en fait, du coup, on a monté l'asso. Donc, je suis passée d'un statut d'entreprise, que Rockcore, c'était une entreprise, à une asso Citizen Corps. Et là encore, il y a encore une maturation, parce que j'ai un très bon parcours, parce que je suis très vieille. On a fait d'abord des parcours pour les ados, en fait, avec l'idée de l'éducation citoyenne. Et donc là, on s'est inspiré d'un programme de politique publique anglais qui s'appelle le National Citizen Service pour travailler sur l'idée d'emmener des jeunes ados, monter des projets citoyens ensemble. Mais on demandait à ces ados d'être... d'abord, c'était 3 semaines. Et surtout, on allait les chercher dans des environnements très différents. Donc, en fait, on travaillait avec les établissements scolaires en Seine-Saint-Denis à Paris. J'étais encore en région parisienne à ce moment-là. Et du coup, les CPE, les profs et les jeunes eux-mêmes étaient motivés par le fait qu'on partait loin de chez soi. Donc, il y avait quand même une partie un peu colo dans laquelle on travaillait sur ses compétences, ses forces, etc. Et donc, pendant une semaine à 10 jours, ils étaient loin de chez eux. Et ensuite, ils revenaient à Paris. Et là, pendant 2 semaines à peu près, ils travaillaient en groupe sur un projet citoyen qui s'élaborait de A à Z, où les adultes qui étaient là et qui les encadraient étaient là uniquement pour les aider à élaborer un projet. Donc réfléchir sur quelle thématique ils avaient envie de s'engager, qu'est-ce qu'ils pensaient qui était la solution qu'ils pouvaient apporter. Donc on travaillait beaucoup en design thinking et comment ce projet pouvait le monter. Donc après, on leur mettait à disposition un certain nombre de professionnels qui étaient là pour les aider, un petit peu un petit budget, donc on votait le budget et tout ça. Et ensuite, ils avaient 5 jours pour le mettre en œuvre. Et donc pendant 5 jours, en équipe mixte, donc avec des jeunes qui venaient de Saint-Denis, comme des jeunes qui venaient de Paris 12e arrondissement, ils avaient un petit budget, un temps défini, et ils montaient un projet. Alors ça allait d'organiser une fête dans un endroit d'hébergement pour des sans domicile fixe. Ce qui est formidable, c'est que c'est pareil que pour Record, c'est que ces jeunes-là, tous autant qu'ils sont, les parents nous faisaient le retour que jamais ils s'étaient levés aussi tôt le matin avec autant d'enthousiasme, parce qu'aller au collège ou au lycée, ça les intéressait que très peu, tous autant qu'ils sont, ça les rassemblait, ça. Par contre, faire le projet qu'eux ont élaboré avec des personnes qu'ils ont consultées avant pour leur demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir, ok, vous avez envie de choisir vous-même la musique, bah c'est vous qui allez faire le DJ. Voilà. Et donc, du coup, ils étaient tous debout avant les encadrants, ils étaient au centre. Voilà. Donc, ils travaillaient sur des sujets, évidemment, autour du climat, autour de beaucoup la précarité. Et quand même, globalement, tous étaient très sujets à faire des projets autour du lien. C'est vraiment le lien qui était quelque chose qui les touchait énormément, de se dire, en fait, l'isolement des enfants malades, l'isolement des personnes à la rue, l'isolement des gens très handicapés, l'isolement. Et donc, allez, donc, on a fait ça pendant assez longtemps. Du coup, j'ai travaillé après sur le service national universel. Et puis ensuite, le service national universel a un peu pris la place de ce qu'on avait fait avec Bicom. Et en analysant ce qu'on avait fait et ce qui pouvait marcher, je me suis dit, en fait, un des problèmes qu'on a rencontré avec Bicom et qui a été aussi un des problèmes du SNU pour moi, c'est que, en fait, pour toucher les jeunes, c'est très, très compliqué. C'est un âge 14-15 ans, d'aller toucher des jeunes en dehors du système scolaire, d'aller chercher des jeunes qui sont éloignés, ça prend énormément d'énergie. C'est un des premiers problèmes, d'ailleurs, de tous les programmes qui s'adressent aux jeunes aujourd'hui. Hein, les jeunes éloignés, éloignés de l'emploi, éloignés des circuits, etc. Pour les toucher, c'est très compliqué concrètement. Mais en plus, pour les motiver, c'est vraiment très difficile parce que le premier truc qu'ils ont perdu, c'est la motivation. Et c'est ce que nous disaient les jeunes dans nos rapports d'impact de Bicom. Les jeunes des quartiers favorisés ou qui sont en réussite scolaire, ils sont motivés pour un peu n'importe quoi. Mais ils ont appris la motivation, en fait. On leur a appris à être motivés. Tu veux réussir un projet ? OK. Et ceux des quartiers plus défavorisés ont un peu laissé tomber. Donc, en fait, la motivation, c'est le premier truc qui leur manque. Et donc, comment on fait pour leur recréer ce cercle de confiance et l'envie de s'engager, etc. Enfin, de s'engager dans sa vie, hein. C'est pas s'engager que... voilà. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Marseille en 2020... Le constat que j'avais, c'était si on veut faire des choses, il faut que ça passe dans l'école, un. Et deux, il faut que ça arrive le plus tôt possible. Avant qu'on soit démotivé. Et avant qu'on se sente un peu... voilà. Donc du coup, l'idée, elle est partie de ça, donc de viser plutôt l'école primaire et de passer dans l'école, mais toujours de reconstituer cet environnement de mixité et toujours cette idée de faire des projets ensemble, que c'est le collectif qui allait finalement faire émerger l'envie de commun et qu'il fallait repenser cette idée de performance individuelle versus réussite collective et que finalement, la réussite collective, ça s'apprend aussi et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et donc, c'est comme ça que le Grand Bain est né à Marseille avec tout un tas d'acteurs. Hein. Je n'étais pas toute seule. Enfin, il y avait Citizen Corps qui portait un peu l'ingénierie pédagogique qu'on avait déjà un peu testé avec Bicom, cette idée de projet, cette idée de mixité. Le jumelage, c'est une idée de Cathy Racon-Bouzon qui était députée à l'époque et qui s'était intéressée à ces questions de jumelage des collèges à Paris. Il y avait Tariq Ghezali, dont on parlait tout à l'heure, qui est un bon ami. Il y avait... des profs, des enseignants qui ont la première année vraiment prototypé le projet en partant de cette ingénierie. Et puis de fil en aiguille, d'une première année vraiment prototypale avec zéro sou et juste du jus de cerveau et beaucoup d'envie, on en est arrivé en 5 ans, puisque là c'est la 5e année. Là on a 1300 enfants, 60 enseignants. Et donc le principe c'est un jumelage. Alors ça s'est quand même structuré hein, parce qu'au début, comme tout prototype, on a essayé un peu. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Du coup,
si,
de
là où on en est. présenter en fait comment ça se passe, ouais, concrètement.
Donc l'idée dès le démarrage, c'était de se dire, on jumelle deux classes de même niveau du primaire, mais de quartiers aux réalités sociales très différentes. En France, on a beaucoup de classifications. Ce qui a des avantages aussi, parce que ça permet du coup d'identifier. Donc il y a des classes, des écoles qu'on appelle, qui sont en zone d'éducation prioritaire, REP et REP+. Et puis il y a aussi un autre outil de classification qui s'appelle les indices de position sociale, qui sont publics depuis 3-4 ans. L'éducation nationale est publique, qui permet de voir de quelle classe sociale, économique, les enfants sont dans une école. Donc à l'aide de ces deux outils, en fait, on peut faire des... Et puis d'une connaissance quand même assez fine du territoire marseillais, on peut savoir quel est le profil socio-économique des enfants. Et donc on va chercher des enfants dans des écoles plutôt défavorisées, et on va mettre une classe de même niveau d'une école plutôt favorisée. Alors quand je dis on va mettre, c'est qu'on va demander à des enseignants s'ils ont envie de... Je dis elles parce qu'elles sont 90% femmes, hein, dans le primaire... Si elles ont envie de participer à ce problème, dans ce programme, c'est du volontariat. Enfin, nous, on a fait un appel à manifestation d'intérêt, et après, c'est elles qui se déclarent intéressées. On leur explique comment ça va marcher, et puis elles disent OK. Donc, on va se trouver et jumeler ces deux classes. Donc ça va se passer pendant l'été, et à la rentrée, elles vont avoir un programme sur une année entière. Qui vont leur permettre de coopérer entre elles déjà, et puis coopérer aussi avec des acteurs du territoire. Donc nous, on est vraiment un programme qui est fait de coopération du début à la fin. C'est-à-dire que l'envie de collectif, on se l'applique aussi à nous-mêmes, et on n'est pas du tout sachant de tout. On travaille avec des acteurs qui ont aussi des connaissances, des expertises, et on passe beaucoup de temps à faire des allers-retours. Donc une fois que les classes sont jumelées...
Coopérer pour faire quoi, en termes d'exemple?
Donc, on a une classe de CM1 de Félix Piat qui va être jumelée avec une classe de CM1 de Breteuil, par exemple. Et donc, les enseignantes vont commencer par, pendant 2 mois à peu près, faire s'écrire les enfants. Donc, on travaille à des échanges épistolaires. On a des facteurs bénévoles à vélo, parce qu'on est très écolo, qui vont faire le tour des classes. Donc, on a 27 binômes cette année. Hein. Donc, ils ont fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, parce que, puisqu'ils sont dans le 15e. Mais bon, là, parlons juste de Félix Piat et Breteuil. Donc, les enfants vont s'écrire par vrai courrier, et les facteurs vont amener les courriers d'une classe à une autre à vélo. Donc ça, c'est un premier moment qu'on appelle le moment de la curiosité, c'est-à-dire comment on développe la curiosité de l'autre. Ça veut dire quoi de s'intéresser à l'autre? Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Comment on parle de soi? Donc là, on va vraiment travailler sur ce sujet-là, quelque part un peu de l'identité hein, aussi, et en donner envie de se rencontrer physiquement. Et la première rencontre, elle a lieu en décembre. C'est les Olympiades de la rencontre, qui sont masterisées par Jeannette Boulanger. Qui va mettre en place ces moments d'animation où les enfants se rencontrent pour la première fois et ils font des jeux de rencontre. On va apprendre à se dire bonjour, on va apprendre à se découvrir, et on va jouer ensemble, et puis on va faire des temps d'inclusion et d'exclusion. Et du coup, les correspondants se rencontrent en réalité. Donc, ces deux classes vont avoir une première journée dont ils se souviennent plutôt, parce qu'on a, voilà, on a une MC, Jeannette, qui est plutôt assez... énergique et drôle, et puis on va passer des musiques comme celles que vous allez entendre, et puis il va y avoir des chorés, et puis il va y avoir des jeux de rencontres. Et là, c'est aussi la découverte des associations du territoire avec laquelle ils vont ensuite monter des projets. Donc ensuite, il va passer 5 mois. Chaque mois, ils vont se rencontrer une journée entière dans des endroits plutôt neutres. L'idée, c'est de les faire sortir de leur classe dans tous les sens du terme, et que ça soit des journées dans lesquelles ils découvrent le territoire, ils découvrent Marseille. Donc ils vont aller... à l'œuvre Joseph Allemand, qui est dans le 6e arrondissement. Ils vont aller à la fac. Ils vont aller à plein d'endroits différents dans lesquels va se passer un atelier qui est construit avec une association du territoire. Ça peut être le Garage Comedy Club, prenons-les comme exemple. Donc, ils vont monter un projet de stand-up pendant ces 5 séances qui, à la fin, sera montré aux parents, puisqu'on fait une journée de restitution qu'on appelle le festival. C'est un grand festival, parce qu'on est un peu mégalo. Donc, on fait le festival des enfants à Marseille. Et du coup, ce festival, c'est le moment d'inviter tous les parents et la communauté éducative. Et là, ils vont montrer ce qu'ils ont fait. Ce qui permet aussi de donner un enjeu à ces moments-là et de leur dire, c'est pas pour rien, on fait quelque chose. L'année dernière, il y avait 1500 personnes.
Comme la valorisation dont tu parlais tout à l'heure, quoi.
Exactement.
Le fait de dire tout ce que vous êtes là en train de faire, c'est pas invisibilisé, ça se voit, ça s'observe. Exactement. C'est quoi les retours aussi des parents dans tout ça?
Alors, les parents, c'est un vrai sujet, parce que les parents et l'école, c'est compliqué, la relation des parents à l'école, qu'elle soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. Ça peut être surinvestissement comme désinvestissement parce qu'on se sent pas, bienvenu peut-être. Mais grâce au grand bain, ce qu'on arrive à faire, alors, toutes les sorties sont accompagnées par des parents. Donc, en fait, on sollicite beaucoup les parents. Enfin, les enseignantes sollicitent beaucoup les parents. Donc, ceux qui viennent, en général, ils sont conquis parce qu'en fait, ils voient leurs enfants faire des choses complètement nouvelles. Pour certains, ils vont toucher à des... voilà, on va avoir des projets. Ils vont aller travailler avec Paysans Urbains. Y en a qui vont travailler avec le Garage Comedy Club. Voilà, donc ils touchent à beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et du coup, ils ont aussi une découverte d'activité, une découverte du territoire. Même pour les parents, c'est aussi une découverte. Je ne parle même pas des parents des quartiers favorisés qui vont dans les quartiers nord.
Tout à l'heure, tu disais sortir de sa classe. Donc, il y a la salle de classe, mais il y a aussi la classe sociale.
Exactement.
Et si l'expérience est proposée aux enfants, j'imagine que pour les parents, ça doit être un petit peu secouant aussi, d'une certaine manière.
Ouais, c'est un vrai challenge parce que du coup, alors, ce qui est super pour nous, c'est que c'est les enseignantes qui mettent ça comme projet. Donc, c'est un projet scolaire. Donc, une fois qu'il a été choisi comme projet pédagogique par les enseignantes, ça fait partie du temps scolaire. Mais il y a des parents qui, parfois, quand ils comprennent au bout d'un moment ce qui se passe, il y en a qui sont un peu réticents. Parce que dans le programme, le moment que je n'ai pas explicité, donc il y a ces 5 journées où ils vont faire un projet. Dans ces 5 journées, il y a 2 demi-journées qui sont balisées pour les visites de quartier. Les visites de quartier, c'est les enfants qui font visiter leur quartier à leurs correspondants. Donc les enfants de Breteuil vont à Félix-Piat, les enfants de Félix-Piat vont à Breteuil. Et ils découvrent ce que les enfants vivent dans leur quotidien. On le fait vraiment à hauteur d'enfant. L'idée, ce n'est pas de montrer son patrimoine, c'est de montrer où est-ce que tu vas acheter tes bonbons, à quel stade de foot tu vas jouer au foot. Et tu racontes ton histoire. Et puis souvent, les enseignantes le construisent avec les enfants sous la forme de chasse au trésor ou d'énigmes. Ou voilà. Et donc, du coup, ils se baladent dans le quartier. Ils comprennent ce que c'est que la vie des uns. Enfin, ils se mettent un peu dans les chaussures des uns et les chaussures des autres. Et donc, parfois, il y a des parents qui sont un peu effrayés, et on peut comprendre, vu le traitement médiatique de tout un tas de choses, d'envoyer leurs enfants à Félix Piat. Et donc, dans ces cas-là, nous, on est là aussi comme référent. On va dire, en fait, on l'a déjà fait. C'est avec des enfants du quartier, donc il n'y aura aucun problème. Les parents du quartier sont là aussi, puisqu'ils accompagnent aussi en sortie. Donc, parfois, les parents de certaines écoles viennent à 10. Et ils passent un super moment.
Moi j'ai fait un service civique à Félix Piat et j'avoue que je venais pas de Félix Piat au début. Il m'a fallu un petit temps quand même de prise de confiance, de me dire ok, en fait tout va bien quoi. Mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on n'y a jamais mis les pieds, juste à la manière de m'habiller, je me dis ça se voit direct que je viens pas d'ici. Mais ça doit se faire dans tous les sens du cas.
Ouais.
Parce que là on parle des personnes qui viennent des quartiers plutôt favorisés qui vont visiter Félix Piat, mais comment ça se passe dans le sens inverse?
Alors, dans le sens inverse, il y a la découverte de... Parfois, c'est très propre chez eux. Il y a des monuments qui les enquiquinent peut-être un peu, donc c'est pas forcément le... Voilà. Et puis, parfois, il y a le sentiment qu'il y a quand même une certaine inégalité, que les écoles, elles ne sont pas pareilles, qu'il y a des arbres, c'est calme, que voilà. Donc ça, ils le ressentent. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on va faire sur le long terme, à la fois avec les enseignantes pour savoir comment en parler, parce que c'est un vrai sujet, en fait, comment on parle de ces inégalités sans les cacher. Et ça nous a pris du temps. Ça fait partie des choses qui nous ont pris du temps dans le grand bain et... C'est beaucoup le travail qu'on a fait l'année dernière avec Laura, donc, qui est la directrice des opérations de la pédagogie, qui nous a rejoint en septembre 2024. Et puis avec la recherche, parce que du coup, on travaille avec un chercheur qui travaille ces aspects de mixité avec nous aussi et sur lesquels on s'est dit, voilà, comment on dépasse le fait que, certes, on arrive à faire coopérer les enfants. Donc ça, c'est super. Et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait et ils découvrent des nouvelles activités et ils sont plus curieux. Certes, les enseignantes coopèrent aussi beaucoup, ce qu'elles ont moins l'habitude de faire. Dans le primaire, on coopère assez peu finalement parce qu'on est tout seul dans sa classe et c'est souvent un manque, mais c'est parfois aussi pas un manque. Donc on coopère avec une collègue et donc on apprend aussi d'autres postures pédagogiques, on est plus curieux, on travaille avec des associations, donc on travaille aussi sa posture. C'est très différent d'être dehors, apprendre des choses avec ses enfants ou dans une classe où tous les élèves sont assis et ne bougent pas. Mais comment on dépasse ça? C'est-à-dire comment cette question des inégalités, on la traite, on en parle? Parce qu'on se rend compte qu'une des choses que fait l'école, c'est quand même d'invisibiliser tout ça. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, en fait. On ne parle pas des inégalités sociales. Enfin, on en parle un peu dans les cours de SES et vaguement en EMC.
Oui, pas du tout en CM2, en tout cas.
Pas en CM2. Et on ne les voit pas. Parce qu'en parler, c'est une chose. Mais en fait, tout d'un coup, les voir concrètement, se rendre compte de ce que ça veut dire, ces inégalités, et pourquoi elles existent, et est-ce que c'est injuste, et comment, voilà, et comment ça ne déclenche pas de la colère. On travaille beaucoup sur les émotions aussi.
Ouais, ça, j'allais vous demander, est-ce que ça provoque des chocs? Est-ce que vous avez des exemples, un moment de prise de conscience, ça peut être par des parents ou par des enfants, soit de son côté privilégié, clairement, ou aussi de se dire, mais c'est pas juste, en fait, moi, pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une vie comme ça? C'est des choses auxquelles vous êtes confrontés parfois?
Ouais, tout à fait. Alors, il y a des façons enfantines aussi, parfois, de voir les choses. Par exemple, les enfants, je sais plus de quel quartier c'était, une école du 15e, c'était Simon Célie qui revenait du 8e. Et qui discutait avec Simone, qui est notre chercheur, qui est italien, c'est un homme, il s'appelle Simone. Et qui lui disait, mais ils sont complètement mythos, non? Parce qu'il y en a un, il m'a dit qu'il avait des poules, une piscine, et qu'il était parti en Australie. Mais c'est des mythos, en fait. Et donc, en fait, leur réaction, ouais.
C'est qu'ils n'y croient même pas, quoi.
C'est qu'ils n'y croient pas.
Oh, c'est fou.
Et alors bon, lui avait une... Après, il y a plein d'autres manières de le verbaliser. Hein. Il y en a qui ont... Et du coup, c'est la première fois qu'on a fait un de ces ateliers qu'on est en train de monter aujourd'hui et que Laura anime, qui sont les ateliers de réflexivité. On a fait un atelier sur c'est quoi être riche et quoi être pauvre. C'est quoi, c'est... Et en fait, en discutant avec eux de ces sujets, on l'a fait avec la classe du quartier défavorisé, là, à Sinoncelli. On s'est rendu compte que c'était... Ils ne se considéraient pas forcément comme pauvres, en fait. Certes, c'était injuste, mais ils n'étaient pas eux, être pauvres, c'est vivre avec 2 dollars et être en Inde.
Ça, c'est une question qu'on aime bien aborder dans cette émission. Aussi, de se dire, en fait, on est riche ou pauvre de quoi? Est-ce qu'on est uniquement d'argent, mais aussi de ses relations, de sa culture, de sa santé, de sa liberté, de son temps? C'est très large, cette question-là. Est-ce que c'est uniquement les quartiers nord-sud ou est-ce qu'il peut y avoir aussi... Parce que nord-sud, il y a une vraie disparité qui peut être sur l'ordre économique. Quand on regarde les dernières élections, il y a aussi une disparité côte et on va dire colline, où on vote pas du tout pour les mêmes partis, et donc on peut aussi avoir une représentation du monde qui peut être différente en fonction de si on habite sur la mer ou si on habite dans les montagnes. Vous faites aussi un peu comme ça, ce côté est-ouest ou centre-est?
Oui, bien sûr, quand on dit quartier nord, quartier sud, c'est complètement caricatural. La réalité, c'est qu'en fait, on travaille vraiment très finement avec l'IPS. Donc l'IPS, c'est indice de position sociale, mais donc dans social, il y a culturel et économique. Hein, donc c'est aussi lié au niveau de diplôme, d'éducation, etc. Donc, et après, nous, on fait aussi des jumelages par rapport justement à la connaissance d'un quartier. Quelle est la représentation que ce quartier a de sa réalité, de la vie, le fait qu'il soit très ouvert ou assez fermé, comme ça peut être aussi dans les collines, avec un côté un peu refermé sur soi. Donc oui, on fait ça. Après, on part quand même des inégalités socio-économiques. On ne part pas, par exemple, du vote ou de la représentativité, parce que ça serait mettre... On n'a pas de jugement de valeur par rapport à ça, alors que les inégalités socio-économiques, elles sont réelles, et que c'est d'ailleurs quelque chose qui traverse... qui est très... ça traverse plein d'autres inégalités, hein, mais ça va traverser des questions de race, évidemment, de religion. Donc tout ça, en fait... Mais comme en France, on ne parle pas de ces sujets-là, on les fait de manière un peu intersectionnelle, je vais dire, avec les inégalités socio-économiques. Donc, et les questions politiques vont se représenter aussi là-dedans, en fait. Donc, voilà. Donc nous, c'est notre manière de faire ces jumelages et de... Donc aujourd'hui, d'essayer de se dire notre objectif, ça sera quand même à terme de parler de ces discriminations.
Oui. Non, vas-y, je te laisse terminer. On prendra le moment de la respiration. Je vois l'heure qui tourne. Mais du coup, je te laisse finir quand même ton argument.
Non, mon argument, c'est juste de dire que si on arrive à faire quelque chose, c'est déjà de leur donner une façon de se positionner, de se situer, eux, justement, dans ces questions-là. C'est-à-dire que l'école a tendance à être... alors, parfois, à donner évidemment, à donner du savoir, mais pas forcément du savoir sur soi, sur comment soi on peut se représenter, quelle est sa position à soi, et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter sur la côte ou d'habiter dans les collines, etc. Et la confrontation à l'altérité, enfin en tout cas l'altérité, elle permet ça en fait. Et donc, voilà.
L'altérité, justement, ça faisait partie des sujets sur lesquels j'avais envie de te questionner juste après la respiration musicale. Est-ce que tu peux nous... T'en as parlé un moment, t'as fait mention du fait qu'on a écouté cette musique. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va écouter et pourquoi tu l'as choisi?
Ouais, c'est Funky Town, c'est pour dire à l'équipe du Grand Bain, voilà, Laura, Sophie, Jeannette, Anouk, que c'est les Olympiades de la rencontre. Voilà, c'était la musique des Olympiades de la rencontre et elle a permis à 1300 enfants de se rencontrer cette année. Et que, voilà, donc c'est un petit message pour elle.
1300 enfants pour combien de classes?
Pour 57 classes.
Pour 57 classes. Et bah, merci beaucoup, on écoute Funky Town et on se retrouve juste après. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes de retour sur Radio Galère pour l'émission de La Forêt des Possibles et nous sommes toujours en direct avec Marion Chapulu qui nous présente le grand bain du mois au nous. En première partie d'émission, Marion nous a présenté son parcours et puis la maturation des idées qui cheminent et qui arrivent jusqu'au fait de pouvoir créer un jumelage entre des classes qui viennent de différents quartiers, différentes classes, salle de classe, mais aussi classe sociale d'enfants de Marseille pour apprendre à faire des projets ensemble, les célébrer ensemble, être reconnus ensemble. Et dans la deuxième partie du nous au tout, eh bien, on va se poser la question de savoir en quoi ça peut avoir une incidence sur la société dans laquelle nous vivons. Donc la politique au sens noble du mot politique, donc on n'est pas là pour prendre des positions partisanes, mais on est là pour finalement projeter une interprétation, une vision de la société dans laquelle on veut souhaiter et on souhaite vivre. Et juste avant l'émission, tu employais un mot qui est l'altérité, que je trouve magnifique. Qu'est-ce que c'est que l'altérité, selon toi? Et en quoi est-ce que ce que vous faites y participe très concrètement?
Bah, selon moi, l'altérité, c'est le fait de reconnaître ce qui est autre chez une personne. Une personne qui n'est pas soi, mais c'est ce qui permet aussi de forger son identité. C'est-à-dire que dans une société, s'il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus de société, en fait, parce qu'on est tous identiques. Donc l'altérité, c'est un dialogue constant, en fait. C'est reconnaître cette différence et ne pas penser que c'est forcément... On a tendance... Moi, je vois, quand je parle du grand bain, très vite, les gens me disent « Ah oui, mais vous leur parlez de leur ressemblance ». Bah, si on leur parle que de leur ressemblance, est-ce que ça a vraiment du sens? Donc, je vois bien que ça fait peur, en fait, si on leur parle des différences. Donc, l'altérité, c'est ce qui permet de se sentir aussi exister soi et de comprendre qu'est-ce qui existe en dehors de soi et comme c'est important de le préserver aussi. Mais c'est vrai que moi, ça m'étonne toujours qu'on ait aussi peur. Vraiment, en deux minutes, j'en disais... Attention, vous leur parlez bien de leur ressemblance. Bah, oui, on en parle aussi, mais... Cette question revient aussi d'ailleurs à des questions du conflit. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui encore de parler du conflit, en fait? Parce que, en fait, le conflit, c'est ce qui est transformateur. Et donc, on va passer par ce conflit pour se construire. Ça ne veut pas dire qu'on va se taper dessus. Bref, on ne va pas revenir à des débats de qu'est-ce que c'est un dialogue et quelle est la capacité de rentrer en conflit. Mais je pense que c'est très important.
Est-ce que c'est une capacité d'accepter l'autre, quel que soit ce qu'on peut ne pas comprendre ou ce dont on ne vient pas? Parce qu'on avait un débat la semaine dernière sur la question de la tolérance. Et moi, je trouve que la tolérance, c'est quelque chose de très paradoxal parce que quand on le met dans le sens inverse, être toléré, c'est pas toujours très confortable de dire « Ah oui, moi, j'ai été toléré ».
Ouais, c'est intéressant. Les questions de mots sont toujours hyper intéressantes. De toute façon, on arrive à parler des choses quand on arrive à les nommer bien. Et nous, on s'est beaucoup posé la question de comment on nommait ce sur quoi on travaillait. Aujourd'hui, notre mot, nous, ça serait le respect plutôt que la tolérance. Respecter l'autre, se respecter soi aussi d'ailleurs. Donc, c'est pas le tolérer, parce qu'effectivement, je suis d'accord que se tolérer peut avoir une vision. Moi, il y a une chose dans cette mixité qui est très compliquée pour nous, enfin qui est très compliquée, qui est pas évident à appréhender, c'est de parler de statut égal. On va mixer, mais ce n'est pas certaines personnes dans la mixité qui vont tolérer d'autres personnes ou qui vont apprendre à découvrir ce que c'est que d'être pauvre ou de vivre dans les quartiers. Alors c'est dans les deux sens, en fait. C'est cette rencontre, elle a de la valeur des deux côtés, en fait. Et c'est pas de la charité chrétienne, c'est pas de l'apprentissage de la tolérance, c'est l'apprentissage du respect, mais qui fait grandir tout le monde. Et je parlais avec une neuroscientifique que j'aime beaucoup, Sama Karaki, là, on discutait de ces questions-là, c'est-à-dire comment faire comprendre que, en fait, les enfants qui sont bons à l'école et dans des classes favorisées, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, en fait, de cette mixité, en fait, de faire... par exemple, la tolérance à l'incertitude, la capacité, enfin, j'ai appelé le mot tolérance, mais la capacité à faire face à l'incertitude. Dans un monde où, aujourd'hui, on vous demande, depuis la maternelle, d'être dans la bonne école, de faire les bonnes études, d'avoir des bonnes notes et les parcours sont déjà tracés. La tolérance à l'incertitude, elle est quand même assez zéro dans les milieux plus favorisés. Et comment on va faire dans un monde qui va être de plus en plus fluctuant et incertain?
Sur plein de choses que tu viens d'aborder, nous on utilise l'image de l'arbre pas forcément sans raison, notamment sur la question de la pluralité des racines qui permet aussi de montrer quand plusieurs personnes disent c'est quoi ton milieu, d'où tu viens. En fait il y a le milieu social, le milieu géographique, le milieu familial, la question du milieu c'est hyper large, et là aussi de pouvoir s'entendre, dire ah tiens on est dans la même salle mais en fait on n'a pas le même milieu, et après le tronc. Et le tronc commun qui peut être pareil pour tout le monde. Et ça, c'est ce que je trouve assez fascinant. C'est une image comme ça qui permet de fédérer quelles que soient les opinions. Et il y a quelque chose d'autre que j'avais envie d'aborder avec toi. C'était finalement la prise de conscience de sa place et la prise de conscience des dynamiques systémiques qui peuvent être d'oppression. J'imagine que ça doit un peu transcender. Le chercheur qui travaille, il s'appelle Simone, c'est ça ?
Simone Spera.
Simone. J'imagine qu'il doit travailler sur ça, c'est-à-dire que à la fois certains enfants qui peuvent se rendre compte de la des milieux favorisés dans lesquels ils vivent et de la chance que ça peut représenter sur le plan matériel, et puis d'autres qui peuvent comprendre aussi qu'ils sont dans des dynamiques d'oppression. Comment ça s'opère ? Comment ça se perçoit ? Comment ça se vit ?
Eh ben c'est tout le sujet hein, du travail de Simone, du travail de Laura et du travail de tout le monde. Je pense que nous, si on arrive à faire changer quelque chose, c'est sans doute peut-être le regard des enseignants là-dessus, parce que il est assez inopérant, c'est-à-dire qu'il veut, les enseignants n'ont pas, et je comprends parce que parfois elles sont pas outillées pour et elles veulent pas rentrer dans ces dynamiques-là. Or, il y a besoin de poser les choses, effectivement, et de pouvoir les expliciter, sans connaître forcément les raisons, parce que parfois, il y en a qui sont trop systémiques et trop complexes pour des enfants de primaire. Mais comment on aborde ces sujets? Et c'est pour ça qu'on a mis justement en place ces temps qu'on a appelés de réflexivité, de papotage, où les enfants peuvent poser ces questions-là et se rendre compte que oui, il y a à l'œuvre bien d'autres choses que juste une séparation de... géographique dans ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que ça perdure, qu'est-ce qui fait que en fait ils ont été eux-mêmes sujets des stéréotypes. Il y a des enfants de quartiers favorisés, quand ils reçoivent les lettres des enfants de quartiers défavorisés, ils l'interprètent comme, enfin certains avec lesquels on s'entretenait, ils l'interprètent comme un manque de considération, en fait, comme si en fait ils font pas attention, en fait ces correspondants ils font pas vraiment attention à leur courrier, aux échanges, parce qu'ils font beaucoup de fautes d'orthographe. Alors que enfants de quartier favorisé, ils en font pas des fautes d'orthographe quand ils font attention. Et donc c'est que en fait c'est un manque d'attention. Et ce qui se passe derrière quand il y a ça, c'est une interprétation de ce que fait l'autre, et donc comment on démonte en disant non, en fait juste ils n'ont pas les mêmes...
Il faut donner la grille de lecture de ce qui se passe sous les cartes, quoi. C'est parce qu'effectivement, on peut... Moi, c'est marrant parce que je n'étais pas en CM2, hein, mais quand j'ai fait mon service civique à Félix Piat, j'étais avec Unicité, avec des personnes qui venaient des quartiers, et vraiment, c'était écrit en français absolument phonétique. Ça m'a beaucoup frappé au début, tellement c'était phonétique, mais ce n'est pas possible. Comment c'est possible d'écrire comme ça? Et effectivement, s'il n'y a pas en dessous des cartes derrière pour expliquer comment ça s'explique... c'est avoir l'interprétation juste de ce qui se passe.
Après, moi, j'aimerais bien qu'on aille même encore plus loin. Tu vois, il y a une troupe de Belges qui font des pièces de théâtre sur ces sujets. C'est des anciens profs et qui font un peu de ces conférences gesticulées. Enfin, c'est des conférences animées, mais du coup, qui sont assez drôles, mais qui mettent en place des... Et ils en ont un sur les fautes d'orthographe, en disant, mais en fait, la faute d'orthographe, pourquoi ça devrait être... un sujet de... C'est tout de suite discriminé, en fait. Est-ce que l'orthographe pourrait pas évoluer ? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde fait beaucoup de fautes d'orthographe. Mais tu es tout de suite conspué, c'est-à-dire si tu fais une faute d'orthographe, et même nous, en tant que... Quand on a été élevés dans des milieux plus favorisés, qu'on a fait des super études, on est honteux d'avoir fait une faute d'orthographe. Donc, il y a quand même un rapport à l'orthographe qui est aussi un rapport de classe et un rapport tout de suite de mettre les gens dans une... Or, l'orthographe, il y a un groupement de... Ah, j'oublie leur nom. Les gens qui étudient la langue, c'est des...
Linguistes.
Les linguistes atterrés. Ça s'appelle le club des linguistes atterrés. Et donc, ils font tout un truc là-dessus en disant les académiciens, c'est quand même que des vieux schnocks qui nous sortent des règles dont plus personne n'a quelque chose à faire. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas faire évoluer le langage et arrêter de penser que parce qu'on est académicien, on est plus valable que... Voilà, donc je pense que se joue là aussi des choses qui sont même au-delà de la représentation, qui est est-ce qu'on fait évoluer les choses et est-ce que l'école est prête aussi à évoluer sur un certain nombre de sujets.
Peut-être même que l'IA bientôt prendra une place là-dedans ou quand il n'y aura aucune faute d'orthographe. Enfin, c'est même de...
C'est déjà le cas. Faute d'orthographe, je vais te dire, moi je suis en train de recruter, quand je vois certains trucs avec zéro faute d'orthographe...
On se dit, c'est douteux. Bah... Alors qu'une petite faute, on se dit, ah non, mais ça a peut-être été écrit pour de vrai, la personne a vraiment pris sa plume. Je vois qu'il reste 5 minutes et 5 minutes, c'est un peu le moment de projection sur Marseille en 2050, 2035. En tout cas, Marseille, pas maintenant, un Marseille dans le futur. Et j'aimerais pouvoir te questionner sur au moins deux choses parce que le temps est assez contraint. La première chose sur laquelle j'aimerais pouvoir te questionner, c'est est-ce que Marseille, selon toi, en 2050 sera ségrégée ? J'emploie ce terme-là, il m'appartient. Il y a eu des études récemment qui montraient que c'était une des villes qui avait le plus de ségrégation sociale entre ses quartiers populaires et ses quartiers riches. Ou est-ce que tu vois une ville qui se rôtisse justement, par les actions que vous menez et peut-être aussi par des moments, des projets très précis, que ça puisse être par de l'art, par du sport, par des moments de rassemblement où on se rassemble davantage et où bientôt on aille prendre des verres partout dans la ville et pas juste chacun un peu vraiment dans son coin.
Écoute, j'ai envie de te dire, sinon j'arrête le Grand Bain si je crois pas que ça va devenir une ville moins ségrégée, puisque nous c'est le principe, on lutte contre ce qu'on appelle la ségrégation scolaire, qui aujourd'hui est identifiée et qui se mesure. Donc la ségrégation scolaire, elle existe. Et pour le moment, elle ne va pas forcément dans le bon sens. Plein de raisons aussi à ça. L'enseignement privé n'est pas non plus exempt de responsabilité. Et puis chacun d'entre nous. Et c'est compliqué quand c'est son enfant. Mais donc c'est le sujet numéro un du Grand Bain, c'est de se dire comment on peut lutter contre cette ségrégation scolaire. Et est-ce que du coup, ça tombe bien, si on se projette dans 20 ans, ça veut dire que les enfants avec qui on fait le Grand Bain aujourd'hui, ils auront 30 ans, donc ça sera des jeunes adultes. Où est-ce qu'ils iront boire des verres? Et est-ce qu'ils auront découvert des quartiers qui leur permettront... Moi, j'adore un truc. Je travaille à une association qui s'appelle Beaumayer, Action Beaumayer, Ismaël Cousin est le fondateur. Et il me parlait... Donc lui, il travaille aux Égalades. Et il me parlait des cahiers de tendance des quartiers nord. Et je veux dire, la réalité, c'est que oui, aujourd'hui, où on va chercher de l'inspiration? Pas dans les quartiers nord. Pas chez les gens des quartiers sud qui sont assez rétifs à l'incertitude, qui ont tendance quand même à... Voilà. Donc, est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on peut espérer en se disant que oui, on va reconnaître... Après, chacun est gagné. Je dis pas que c'est super de vivre dans les quartiers nord. Donc, je pense que c'est là où la mixité est intéressante. Où est-ce qu'on va aller chercher peut-être une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle créativité, peut-être une résistance à l'incertitude, peut-être une capacité à plus penser collectif. Et où est-ce qu'on va aller chercher effectivement peut-être des modèles économiques, faire que... Enfin, voilà, chacun a des choses à apporter, mais c'est ce qu'on espère, c'est que peut-être en commençant à créer ces liens et ces dynamiques collectives, elles perdurent et que dans 20 ans, les jeunes Marseillais deviennent ouverts à leur ville en entier.
Puis peut-être aussi de se rendre compte que les quartiers nord, c'est pas un bloc homogène. On en parlait pendant la pause musicale, c'est quand même... moi, c'est un endroit qui me fascine complet par l'espèce de melting pot qui n'a pas été pensé d'un point de vue urbanistique cohérent, avec des fermes, des grandes tours, des endroits avec des petits noyaux villageois. Enfin, c'est quand même très, très particulier.
Ça me fait penser d'ailleurs à une autre personne que j'aime beaucoup à Marseille qui s'appelle Rémi Baye. Rémi, il est romancier, il a écrit un roman, mais il travaille aussi, il fait des festivals pour les étudiants de l'AMU, il s'occupe aussi de Oh les beaux jours et de les rencontres d'Averroès, il fait de la programmation. Et il me disait la dernière fois, je trouve ça hyper vrai, il me disait mais en fait aujourd'hui on est en attente du bug quoi, parce que en fait les algorithmes c'est plus possible. Donc finalement est-ce que le désirable c'est pas le bug? Et je me dis c'est intéressant de voir l'avenir comme ça aussi quoi.
Ouais, moi parfois je le souhaite. je vois qu'il nous reste une minute. Et donc, en une minute, j'aimerais avoir ton avis sur l'éducation. Waouh. Non, mais est-ce que...
Ah, mais là, je dis non. Là, je ne peux pas donner mon avis sur l'éducation.
Il faut savoir poser des limites. Non, mais est-ce qu'on apprend toujours dans une salle de classe? Parce que tout à l'heure, tu nous as présenté en fait plein de manières de pouvoir apprendre et que ça ne se passe pas que dans une salle de classe. Ça se passe par l'apprentissage, par le partage. La coopération, c'est un mot que tu as employé à plusieurs reprises, par la pratique. Voilà.
Ah oui, non, mais moi, je crois vraiment qu'on risque de mourir de ça parce que le système, en fait, il est en train d'imploser. Il est fait pour peut-être 10% des enfants aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les enfants, de n'importe où qu'ils viennent, franchement, qu'est-ce que c'est dur d'aller à l'école. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout adapté. On ne travaille pas le corps. Il faut être assis 7 heures par jour. Non, mais moi qui suis aujourd'hui une adulte qui travaille depuis longtemps, enfin, moi, je ne travaille pas 7 heures par jour assise à mon bureau. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Je vais voir des gens, je sors, je me dépense. Enfin, voilà, donc on impose des choses qui sont... que les adultes n'ont pas envie de s'imposer à eux-mêmes. Donc, c'est quand même qu'il y a un problème. Par contre, sur l'apprentissage, moi, je pense qu'on apprend tout au long de la vie. Et ça, c'est aussi un truc qui est important. C'est pourquoi, tout d'un coup, tu arrêtes tes études et c'est fini d'apprendre. Non, tu continues à apprendre. Donc, c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui n'a pas de fin, l'éducation. Donc, voilà.
On apprend toute la vie. Ben, on espère que celles et ceux qui nous écoutent, des petits comme des grands, en ont appris ce soir. Avec toi, Marion Chapulu, on le rappelle, du Grand Bain. C'était fascinant. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, on vous souhaite une très belle fin de soirée. Et on vous dit à la semaine prochaine.